petit peu retard sur sa conférence. On attend un peu les livres qui sont censés illustrer ce dont les auteurs ici présents vont vous parler. Mais je pense qu'ils peuvent vous parler et vous donner envie de lire leurs livres, même sans les avoir sur la table. Alors, bienvenue à Jean-Philippe Jadrowski, qu'on ne présente plus. Si, un peu quand même, pas du tout.
J'ai pris quelques bouquins de matière celtique, c'est la raison pour laquelle je suis venu pour vous ce matin.
De compter, merci. Pour une belle audience. Estelle, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler principalement d'un peu des oracles.
Oui, voilà, alors, moi, donc, rapidement, je suis auteur dans pas mal de genres d'imaginaire, enfin, qui sait. Et là, on va surtout parler de ma série de fantaisie historique qui se passe à la fin de l'Antiquité, à la fin de l'Empire romain, donc. Avec aussi un peu de mon celte et de dieu celte en fond dans les forêts.
Et Alain Gousset, qui est un peu notre antagoniste de la table ronde, puisque son livre, Règne le Gaulois, parle finalement assez peu des celtes.
Pas du tout. J'ai écrit 100 livres, jamais rien sur la mythologie, jamais rien sur les celtes. Donc ça doit être une erreur de casting.
Non, c'est pas une erreur, mais c'est. Certainement une façon d'opposer la mythologie et la réalité, puisque l'idée, c'est bien de faire la différence entre histoire et mythologie en ce qui concerne cette population sur laquelle il y a certainement plein d'idées fausses qui courent. Et moi, j'avais envie un peu de vous demander quelle était pour vous, au départ, est-ce que vous avez d'abord envie de nous définir les celtes, ce qui est un peu une question piège et bateau, ou plutôt de nous dire quelles sont les plus grosses erreurs et les plus grosses histoires qu'on se raconte sur les celtes et que vous trouvez complètement fausses et décalées. Voilà. Il n'y a pas trop. C'est ça, ce qui
bon, on est parti pour un cours de 2 heures. je vais me permettre de lancer quelques pistes. Alors, qui sont les celtes? Personne ne le sait. Je vous dis ça parce qu'actuellement, c'est un débat qui existe au sein des historiens. Certains historiens affirment que les celtes, en fait, c'était une civilisation à partir du premier âge du fer, c'est-à-dire en gros à partir de 800 avant Jésus-Christ, qui couvrait le centre de l'Europe du Nord, au nord en gros des Alpes, avec un arc de cercle allant en gros de l'Autriche jusqu'à l'est de la France. Et puis ce serait une civilisation qui serait rentrée en expansion un peu vers le nord, beaucoup vers l'ouest. Beaucoup vers l'est, ce dont on se souvient peu, puisqu'en fait ils ont descendu la vallée du Danube, ils ont donc Alexandre les a rencontrés, Alexandre le Grand, avant de partir à la conquête de l'Asie, il s'est dit là-haut au nord, j'ai des voisins qui sont assez remuants, je vais faire une démonstration de force avec mes phalanges pour leur dire vous bougez pas. Et ils ont bougé quand même à peu près. Ils ont fait une incursion en Grèce. Est-ce qu'ils ont pillé le sanctuaire de Delphes au IIIe siècle avant Jésus-Christ? D'après certaines sources historiques, ils l'ont fait. D'après d'autres sources historiques, ils ont été repoussés par les armées grecques. Mais ensuite, puisqu'ils n'ont pas pu s'installer en Grèce, ils ont franchi le Bosphore et ils ont été fondés un royaume en Turquie. À l'emplacement, en gros, donc actuellement, la galaxie, où ils ont vraiment cassé les pieds pendant des siècles, enfin, pendant un bon siècle. Aux cités hellénistiques, aux cités de culture grecque, turque. Et puis, ils ont envoyé des mercenaires qui ont essaimé un peu partout en Méditerranée. Il faut savoir qu'on a retrouvé des boucliers celtes en Égypte. Sans doute des traces de mercenaires au service de royaumes hellénistiques. Donc, après une grande civilisation qui a fait tâche d'huile, certains historiens disent, mais en fait, on surinterprète les trouvailles archéologiques qu'on peut faire un peu partout, c'est pas parce qu'il y a une certaine identité dans les objets qu'on va retrouver que toutes ces personnes appartenaient à la même civilisation. Et il y a toujours un débat actuellement. Alors d'où vient le mot celte? Il est employé en fait par les historiens grecs, les Celtoi, et par César lui-même, qui parle de Celtae. Pour César, les Celtae, en fait, c'est une petite région. C'est la Celtique qui est au centre de la France actuelle et qui est aussi le sujet de mes romans que je n'ai pas présenté tout à l'heure, le cycle de Roi du Monde, qui en fait est une traduction en français Roi du Monde du nom des Biturige. C'était la signification de leur nom. Les Biturige, c'est ceux qui ont donné leur nom à la ville actuelle de Bourges. Et Bourges, César, en fait, au nord de la France, déjà, ce ne sont plus des Celtes, mais ce sont des Belges. Pourquoi? Ils ont une culture qui semble très semblable. Et au sud-ouest, oui, de la France, ce ne sont plus des Celtes non plus, ce sont des Aquitains. Mais les archéologues disent, oui, mais il existe aussi des Celtes verts, c'est-à-dire des Celtes qui sont partis en Espagne. Il y a une région d'Espagne, la Galice, dont le nom est d'origine celtique. C'est très difficile de les définir. Ce qui est difficile aussi de les définir, c'est que là, je vous parle vraiment de l'Antiquité. Mais en fait, la culture celte, on la connaît surtout d'après ce qu'on sait de la fin du Moyen-Âge, des îles britanniques. Les îles britanniques portent un nom celtique. Je ne vous garantis pas la prononciation, mais Prydain ou Prytanos, hein, c'est un nom celtique. On connaît surtout la culture, en fait, par les sources qui nous viennent de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, et qui nous viennent de ce qu'on appellera ensuite au Moyen-Âge la matière de Bretagne. Bretagne étant à prendre au sens de Grande Bretagne, puisque en France, nous n'avons que la Petite Bretagne.
Merci, on vient de se faire chier, tu retournes en leur disant qu'ils sont petits.
Mais les petits bretons, en fait, ce sont des envahisseurs.
En plus,
oui, ce sont des envahisseurs. Qui viennent de la Grande-Bretagne et qui ont conquis la Maurique, hein, le pays près de la mer. La Maurique a encore un nom celtique, hein, le pays près de la mer. On a des Gallo-Romains et des Britto-Romains qui se sont un peu bouffonnés autour du 5e, 6e siècle dans notre petite Bretagne.
Bon, alors donc, les Celtes sont partout et tout est dans les Celtes, grosso modo, c'est ça, ils sont un peu.
Ils sont un peu partout.
Un peu partout. Et celles où est-ce que vous les avez cantonnées, si vous les avez cantonnées?
Alors en fait, moi je me situais à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire à une période où de toute manière, ce qui était, là on est aujourd'hui, la Gaule est déjà de moins en moins gallo-romaine, de plus en plus de barbares qui s'installent, de plus en plus de ferments de ce qui est Moyen-Âge qui va devenir. Donc vraiment, dans une bonne partie de la saga qui se passe en Gaule et puis ensuite en Orient, la culture celtique est au mieux un très lointain souvenir. Mais malgré tout, il y a, ce que disait Jean-Philippe, un héritage, et un héritage notamment mythologique et culturel des Celtes, qui a été transmis, y compris par ceux qui les ont combattus, qui quelque part dépassent donc les frontières géographiques. Et ça, c'est une idée qui est très intéressante à fortiori. Ici, on est dans un festival d'imaginaire. Comment finalement la mythologie, la culture d'une civilisation peut dépasser les bases géographiques et les bases temporelles finalement de cette civilisation elle-même. C'est quand même la force donc, d'un imaginaire, plus que la force même simplement d'un moment, dans le temps ou dans l'espace. Et après, donc, là, la saga est en trois tomes, le troisième n'est pas ici, les montagnes. Enfin, ils sont à la table de livres, mais pas sur cette table. Par contre, donc, dans le troisième tome, moi, chaque tome, j'amène les héros un peu plus loin. Et dans le troisième tome, il passe le mur d'Adrien, qui est en Grande-Bretagne, qui est la frontière de l'Empire romain au nord de la Grande-Bretagne. Et là, derrière le mur d'Adrien, ils trouvent quelque chose de plus ancien que tout ce qu'ils ont exploré pendant tout le reste de l'histoire. Et au-delà du mur d'Adrien, ils vont aller dans le Cid et ils vont aller dans l'au-delà des Celtes, en fait. Et c'est là, vraiment, que mes héros vont aller au plus profond de l'histoire et au plus profond des ferments mythologiques de l'histoire. Après, comme c'est le troisième tome, j'essaie de ne pas faire trop spoiler, c'est un peu difficile.
Alors, est-ce que justement, on en a discuté en parlant de cette table ronde, est-ce que justement, il n'y a pas une confusion entre Celtes et Gaulois?
C'est possible, mais bon, pour moi, il n'y en avait pas dans mon idée. Pour moi, c'est un jeune Bren, pour la jeunesse, moi, je n'écris que pour les jeunes.
Les vieux.
Bon, j'ai échapper pour rechercher sa sœur qui est prisonnière à Rome. Il va traverser toute la Gaule avec ses chiens parce qu'il va arriver à Rome. Et c'est le seul moyen qu'il a de gagner de l'argent pour racheter sa sœur qui est esclave avec des combats de chiens. Il y a beaucoup de combats de chiens à l'époque. Et comme il est sûr de ses menaces, il va triompher de ça. Voilà.
Et est-ce que Christelle, on a parlé de Paris hier et j'avais une question un petit peu dans ma provocation, de dire que écrire avec un décor tel que celui de Paris, c'était peut-être une petite paresse d'auteur qui faisait qu'on n'avait pas besoin de construire. Oui, je me gêne pas. On n'avait pas besoin de construire un décor puisqu'il existait déjà. Mais finalement, est-ce que quand on s'appuie sur des choses, alors je sais que pour vous, c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de travail, mais est-ce que c'est pas plus facile, on en parlait Alain avec l'idée de la mythologie, est-ce que c'est pas plus facile d'entrer dans des choses qui sont déjà un peu connues dans l'esprit des gens quand on n'est pas complètement créateur d'univers? Est-ce que c'est pas une facilité, je mets des gros guillemets, mais quelque chose qui permet soit de plus vite attirer le lecteur, soit de partir avec un acquis quitte à lui chambouler ses croyances? Et est-ce que c'est pas une petite facilité? Alors, sur la mythologie, vous m'avez dit.
Fasciné par la mythologie, mais étant enfant, j'étais passionné par les contes et légendes de Jonathan, et j'avais tout dévoré et tout. Mais en tant qu'auteur, je me suis toujours interdit de me reprendre la mythologie parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez facile de plaquer son histoire sur des héros existants déjà et sur toute une trame.
Dans les écrivains.
Donc, mais c'est mon choix personnel, il y en a d'autres. S'en servir, s'en appuyer, on peut faire la démonstration bien plus historique, et surtout pour les adultes, en se resservant de cette mythologie, parce que cette mythologie, ils la vivaient, ces gens-là, à l'époque. Donc c'était parmi leurs croyances. Donc
c'est une belle histoire, pour être sûr. Jean-Philippe, est-ce que c'est une facilité de...
Oui, non. Disons que c'est une approche, en fait, pour le public, parce que les celtes sont quand même très à la mode. Il y a toute une série de représentations qui sont sans doute de l'ordre du lieu commun, pas seulement. Mais en tout cas, il y a toute une série d'images qu'on associe aux Celtes et qui font une approche quasiment commerciale. Maintenant, ça dépend aussi du sujet de l'époque celtique qu'on va traiter, dans la mesure où la civilisation celte, finalement, n'est pas éteinte. Hein. On parle toujours, même si c'est... On parle toujours des langues celtiques. Les langues gaéliques sont toujours parlées. Le breton est vivace. Il a commencé à réapparaître alors qu'il a dû subir une forte pression française au début du XXe siècle. C'est une civilisation qui existe toujours, mais en même temps, c'est une civilisation dont de larges portions méconnues. Moi, je me suis intéressé à une période qui est vraiment très méconnue, qui est le premier âge du fer, le deuxième âge du fer aussi, puisque je suis mais on se réunit les deux. Et en fait, là, les données historiques sont extrêmement lacunaires, puisqu'on a, sur le plan des textes, uniquement des sources d'auteurs latins et grecs, d'auteurs qui souvent ont peur des Celtes ou les méprisent. Et par conséquent, on leur accorde assez peu d'attention. Donc on a des fragments dans des œuvres qui sont consacrées à d'autres choses. Et puis, alors, en ce qui concerne la mythologie, pour le coup, sur une époque aussi haute, on n'a aucune source directe. On a des légendes et des mythes beaucoup plus récents, qui sont probablement des évolutions de mythes plus anciens. Et donc, en fait, c'est là où se niche chez moi le travail de la fantaisie, c'est qu'il y a énormément de spéculation, de récréation, d'imagination, à partir de sources sur le plan mythologique, qui sont des sources plus récentes, qui sont des sources médiévales, qui sont des contes gallois, qui sont... La Radia des Vaches de Coulet, qui est une épopée irlandaise, qui sont aussi des traces qu'on trouve de l'imaginaire celtique dans les romans de chevalerie, en particulier les romans de Chrétien III, où on voit apparaître des figures qui sont superficiellement christianisées, romanisées, mais qui en fait sont des figures païennes et probablement celtiques. Et à partir de là, en fait, il faut que j'essaye d'imaginer ce que peut être une mythologie plus archaïque et puis du prétélie. En fait, c'est un vrai casse-tête parce que dans ce travail de création, il y a une tension entre les recherches qui sont des recherches recherche. L'archéologie continue à progresser, par exemple, et l'archéologie va parfois amener de nouvelles données qui sont en contradiction avec des choses que j'ai pu imaginer. Là, il y a une vraie tension entre les deux. Alors, quel était l'exemple, l'exemple récent? Il y a un exemple qui m'amuse beaucoup, je suis regretté de ne pas avoir, c'est pas un exemple idéologique, c'est un exemple vraiment matériel, que j'ai regretté de ne pas avoir encore mis en mouvement, ça va paraître à un moment ou à un autre. Il y a 10 ans, il y a un chantier archéologique qui a été ouvert à Bobigny, parce qu'on a retrouvé un grand cimetière du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et dans les objets qu'on a retrouvés, bon, je ne savais pas que ça existait dans le monde celte, on a retrouvé des canifs repliables. Les Celtes, au 3e siècle, avaient des lagernes.
La marque est dernière.
On a retrouvé au moins 3.
Avec la petite abeille.
Je ne sais pas jusqu'à là, mais en tout cas, vraiment, la lame repliable, le système à vivre, le canif, le lagerne.
Alors, c'est optimal.
C'est ça. C'est l'exemple de trouvailles extrêmement récentes. Alors que moi, je suis déjà lancé dans l'écriture. Moi, j'ai mis des couteaux, déjà. J'ai mis un couteau dont les archéologues m'avaient déjà, donné l'illustration, ce qu'on appelle le batardo, c'est-à-dire un couteau dans une gaine qu'on va ranger contre une gaine plus grande, c'est-à-dire qu'on va ranger dans la gaine de l'épée. Mais c'est pas un couteau repliable. Alors, ça, c'est un exemple matériel concret qui fait que, comme l'archéologie continue à avancer, on continue à découvrir des choses, mais il y a d'autres choses. Alors, c'est plus compliqué à mettre en scène, encore que il y a eu une grande tombe princière du 5e ou du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a été découverte il y a 2 ans à Lavaux, dans la banlieue de Troyes. Et parmi les objets somptueux qu'on a retrouvés, des objets uniques, hein, par exemple une nokoé, c'est-à-dire une cruche à vin grec, avec des peintures typiquement grecques, mais dont le corps était doré à leur fin, ce qu'on n'a jamais vu dans le monde grec. En fait, c'était un vase bling-bling des proies celtes, puisque les Grecs n'avaient pas le mauvais goût d'aller jusqu'à dorer leur vase. Il s'agissait de faire un objet de prestige d'origine grecque, mais avec une touche celtique. Alors, ça, par exemple, c'est une trouvaille assez extraordinaire, mais sur le plan technique, hein, les archéologues ont trouvé aussi un couteau qui, a priori, était difficile qui était sans grand intérêt, a priori, compte tenu de son mauvais état de conservation en raison de la corrosion. Et une analyse plus fine a montré que ce couteau était damasquiné à l'étain. Donc, ça veut dire qu'au premier âge du fer, les Celtes maîtrisaient le damasquinage. Ça ne nous vient pas forcément d'Orient. Et en plus, le damasquinage avec un métal qu'on utilise rarement pour le damasquinage, l'étain. Et pourquoi l'étain? À nouveau, c'était sans doute un objet de prestige, un autre truc bling-bling. L'étain, c'est rare dans l'Antiquité, mais on en a besoin pour faire du bronze. Il s'agissait probablement d'étain d'importation des îles britanniques qui participaient au marché des métaux pour fabriquer du bronze, en particulier vers la Méditerranée. Et ça, encore, c'est une trouvaille vraiment récente. Alors, on n'est pas dans la mythologie, on est dans les artefacts. Quoi. Mais du coup, il faut suivre, si en tout cas on essaie de coller aux sciences actuelles, aux découvertes actuelles, il faut suivre parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Et franchement, le damasquinage au 5e siècle, au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans nos campagnes, chez nous, barbares arriérés, puisque c'est comme ça que nous observaient les historiens latins et grecs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors maintenant, on sait qu'il y avait des sectes bling-bling dans le 9-3. C'est quand même pas. L'info est à tweeter. Estelle, est-ce que vous aussi, vous essayez de coller à des choses de la réalité qu'on connaît sur les sectes ou...
Évidemment, je pense que comme tout est en présent à cette table, je suis une grosse fan de documentation. Et à l'écriture du roman historique ou de la fantaisie historique, ça permet de faire de la documentation avec une bonne excuse. Donc, c'est ça que je suis fascinée, en fait. Quand on voit ma bibliothèque de livres documentaires, oui, quand même. Et, mais aussi, pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe, il y a deux, trois choses qui forcément m'ont fait réagir, même si moi, donc, je suis quand même presque 10 siècles plus loin dans le temps. C'est déjà, on est dans des cultures, quand même, dans toute cette partie de l'histoire qui communique beaucoup plus souvent que l'image qu'on en a au début. C'est vraiment des cultures qui s'influencent les unes les autres. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, il y a beaucoup de savoir-faire qui voyagent, il y a beaucoup justement de métissage, ben, donc, comme voilà, le vase grec métissé d'or recette. C'est vraiment des mondes qui communiquent, et ça, a fortiori de nos jours, dans une période où on a tendance au contraire à vouloir opposer les civilisations les unes contre les autres, se rappeler que notamment autour de la Méditerranée, il y avait que des cultures qui vraiment échangeaient entre elles. Je pense que c'est quelque chose d'assez important à dire et à faire vivre dans des livres. Et aussi, donc, que, évidemment, on fait de la documentation, mais on est chacun sur des périodes dont l'histoire même est mouvante en ce moment. Les historiens sont constamment en train de réfléchir sur ces périodes de l'histoire, en train de remettre en cause aussi certaines idées qu'avaient amenées les historiens des générations précédentes. Pour la fin de l'Antiquité aussi, par exemple, les sources écrites principales, c'était les sources romaines. Mais les Romains, c'était des gens qui voyaient mourir leur monde, donc ils avaient quand même une vision de fin de civilisation, une vision très apocalyptique qui ne correspondait pas à toute la réalité du monde. Et maintenant, les historiens essaient de reconstruire une réalité qui est beaucoup plus complexe, mais avec des points qui resteront des zones d'ombre pendant au moins des décennies, et sans doute pour certaines, qui resteront des zones d'ombre éternellement. Et en tant qu'auteur, on joue aussi avec ces zones d'ombre, et c'est ça qui est passionnant. Ou c'est dans les interprétations de l'histoire, par exemple. Donc, ça, c'est un petit peu, mais c'est pour, par exemple, dans le troisième tome, donc, mon héroïne se retrouve damnée avec des Pictes. Et les descriptions des Pictes qu'on a par les Romains, c'est presque des descriptions de démons plutôt que d'hommes, en fait. Et après, il y a ce que les historiens essaient de reconstruire la civilisation Picte. Et il y a ce que je vais prendre dans mon roman, qui est une sorte, comment dire, de condenser les deux pour à la fois à l'aspect fantasy, parce que mine de rien, cette idée de démons guerriers faisait partie de la vision du monde des Romains, donc pour eux, elle avait une réalité aussi. Et en même temps, on va dire que non, c'est pas non plus des démons guerriers, qu'il y a des hommes réels derrière. Et voilà, essayer de, comment dire, de créer quelque chose de romanesque à partir de cette double vision des choses, c'est ça pour moi aussi. Le travail de romancier, surtout quand on est dans du fantastique historique et dans de la fantasy historique. Et sur un dernier point, sur aussi ce que disait mon voisin droit cette fois, sur ce que disait Alain Grosset, quand on parle de mythologie, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi quand je parle de mythologie et que je reprends des mythologies, des dieux, des créatures donc, qui viennent de siècles très éloignés, j'ai l'impression que dans l'imaginaire, on s'inscrit quand même dans une grande tradition de conteurs, de bardes qui, à chaque génération, reprennent les mythes, les contes de la génération précédente. C'est par exemple ben, les bardes qui ont pris dans la matière de Bretagne, dont on parlait Jean-Philippe Jaworski, donc toute la mythologie celtique, et quelque part, peut-être à notre manière, en écrivant sur ces périodes-là, on continue cette tradition des bardes qui, eux-mêmes, au Moyen-Âge, donc, reprenaient les héros et les dieux celtiques. Et qu'au XXIe siècle, cette tradition-là puisse perdurer, je trouve que c'est plutôt encourageant.
Je crois qu'on fait revivre aussi à travers la mythologie une des principaux relations humaines et qui sont absolument d'actualité aujourd'hui. Bien sûr. Il y a des choses aussi en creusant, comme tu dis, la documentation, c'est de trouver des choses absolument modernes. Moi, j'étais fasciné de voir que la première guerre menée par César sur la Gaule, c'était pour aller détruire les vignes, parce que les Gaulois avaient récupéré la vigne en Italie, et puis comme la vigne poussait très très bien, d'un seul coup ils étaient devenus quasiment les premiers producteurs de vin, et ça coulait l'économie de Rome, et les autres ont dit si tu pouvais verser la grève au pinard là-bas. Qu'on puisse revendre
un petit
coup, donc voilà, donc la mondialisation, ils en avaient peur que les
ces fameux mots dont on parlait. Donc on peut vraiment interroger l'histoire. Et ça, c'est une des choses qui me passionne, c'est aussi de voir comment jouer avec les zones d'ombre. Et ensuite, la grande conscience des époques qui m'intéresse, j'aime vraiment voir les époques où on voit changer le monde, les changements de civilisation. Là, c'est vraiment le passage de l'Antiquité à ce qui va donner le Moyen-Âge. Dans mon petit nouveau qui est sur la table, c'est sur le tournant, cette fois, entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est toujours comment, à la fois, il y a pour certains une fin du monde, d'autres aspirations nouvelles qui viennent miner des civilisations qui sont installées parfois depuis des siècles. Et voilà, pour certains, c'est un cataclysme, pour d'autres, au contraire, c'est une renaissance, c'est un nouveau monde. C'est des périodes qui sont déjà... super pour placer des romans parce que tout de suite il y a des tensions, tout de suite il y a une dramaturgie qui se met en place. Et en même temps, les périodes où on voit vraiment changer l'humanité, ça dit quelque chose de très fort sur l'humanité en général. Et a fortiori, à notre époque, on se pose beaucoup de questions sur les civilisations, les fins de civilisation et tout ça. C'est des questions très actuelles aussi.
Et plusieurs autres moments qui m'ont poussé à choisir les Celtes, il y a des raisons qui sont très personnelles, qui sont émotives. Des raisons qui sont plus réfléchies. Ce qui est émotif, je le dis assez souvent, ça a été pour moi le choc de la découverte d'un site celte quand j'étais ado, un copain qui avait dit il y a un camp romain quelque part dans les bois, il y a un camp romain, on ne verra rien du tout. Alors que souvent les camps de César, les camps romains qu'on a chez nous en France, ce n'est pas des camps romains, c'est des oppidums celtiques, c'est-à-dire des forteresses celtes. Et quand on était en plein bois, c'est une grande forêt, je me disais on ne verra rien voir, et bien on voyait très bien. Fossés à de grands talus, le tracé d'une double muraille avec un double fossé d'un oppidum qui est pas très loin d'ici, qui près de Nancy à Messin. On le voit très bien. Une fois qu'on sait que c'est des murailles, que c'est un double système fortifié, on peut le suivre à travers bois sans aucun problème. Et donc c'était frappant pour moi, surtout que j'ai appris plus tard que ce site n'avait pas 2000 ans, c'était un corps romain, mais en fait il avait 2500 ans. Un choc, là, la découverte en forêt d'un site ancien. Par la suite, j'ai fait, en tant que fouilleur bénévole, un peu d'archéologie, j'ai fait un peu d'archéologie sur des sites celtiques. Et je me suis rendu compte que sur le plan romanesque, toutes les découvertes qui ont été faites récemment sur le plan linguistique, sur le plan archéologique, n'ont pas été exploitées ou très peu exploitées. Alors, toute la période de l'Antiquité tardive, du Moyen-Âge, il y a pas mal de choses qui ont été écrites dessus. Mais le premier âge du fer, il y a très très peu de choses. On le suit aussi avec un opportunisme très commercial, mais il y a un créneau. Il y a un créneau.
Il y a aussi des commerciales, super.
Et puis la troisième raison, qui est surtout une raison, et là je reviens sur la mythologie, qui est une raison qui est finalement plus thématique, c'est que de ce qu'on sait de la mentalité celtique jusqu'à nos jours, en particulier dans le folklore en Bretagne, c'est que pour les Celtes, la frontière entre le monde des hommes et l'autre monde est extrêmement ténue. On circule sans arrêt d'un monde à l'autre. Les morts sont très présents. J'ai repris dans le dernier bouquin que je viens de sortir, je fais juste par allusion, mais dans la deuxième partie de Chasse Royale, j'ai repris une tradition sur la célébration du mariage qui est en Bretagne. Quand dans la Bretagne traditionnelle, on allait se marier, on allait demander la bénédiction des morts. On allait au cimetière demander la bénédiction. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient vraiment de la haute antiquité, parce que là, tu parlais du Cid. Le Cid, l'autre monde, c'est un lieu où on va trouver des belles gens, des fées, des dieux, qui sont souvent des morts aussi. Et le mot, il vient probablement du gaulois Celtos, qui signifie le siège. Pourquoi est-ce que le site, le tertre où se trouve l'autre monde serait le siège? Parce qu'il est très probable, et ça on a sans doute l'illustration à Tara en Irlande, qu'au moment des grandes fêtes celtiques, le haut roi va siéger sur le tertre funéraire de ses ancêtres, et donc il rend la justice avec les morts. Les morts qui sont des personnages merveilleux, en même temps la mort, c'est l'île de Géane, c'est un endroit merveilleux, donc c'est une espèce de paradis païen, finalement c'est très séduisant. Et ça se prête extraordinairement bien au récit de fantaisie. C'est cette porosité entre les différents mondes, c'est parfait pour écrire la fantaisie. aussi ça qui m'a intéressé dans la mentalité et la culture, la mythologie celte.
Et pour continuer sur tirons les choses vers la mythologie et vers la différence, utilisant la fantaisie, est-ce que vous êtes attenté, peut-être plus Estelle, mais je me trompe peut-être, est-ce que vous êtes attenté de réécrire complètement les choses et de vous lancer dans le chronique, de vous lancer dans l'événement qui fait basculer les choses autrement et qui pourrait inscrire notre monde dans une autre histoire? Est-ce que c'est pas le bon moment aussi pour écrire un basculement fantasy ou historique? Est-ce que c'est pas Estelle parlait d'époque charnière, est-ce que ça vous tente pas d'utiliser les choses plus de cette façon-là?
De toute manière, tout ce qui est joué avec l'histoire, quand on interroge l'histoire, il y a aussi cette idée de et si les choses s'étaient passées autrement, qui est une piste évidemment intéressante à explorer. A fortiori, quand pour montrer des choses qui se passent autrement, on a tout le renfort, quelque part, de la mythologie, on a tout le renfort de ces autres mondes qui coexistent avec le monde réel. Donc, c'est aussi un jeu possible. Maintenant, quand je fais de la fantaisie historique quand même, j'aime toujours, pour moi, retomber sur les pieds de l'histoire, c'est-à-dire quand même s'inscrire dans une trame qui, au final, rejoint toujours et toujours dans la trame historique que nous avons. Mais pendant le temps du roman, c'est une sorte, de temps suspendu. Et dans ce temps suspendu du roman, tout en ayant des vraies bases historiques, on peut aussi, par moments, pousser le jeu un peu plus loin et voir comment on peut retomber sur ses pieds. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, parce qu'en fait, je ne sais pas faire de spoiler non plus. Voilà, donc si ce n'est pas très clair, j'espère que... Mais c'est vrai que oui, après, on peut pousser le jeu un peu plus loin et faire des petites variations comme ça, des petites rigules sur l'histoire. Et donc, ces petites vaguelettes, en quelque sorte, qui sont là où se niche justement la fantaisie et le fantastique.
Voilà. Je pense que là, le fait d'étudier en profondeur un moment historique, moi, je me souviens qu'à Flamal, on m'a demandé d'écrire un livre sur la guerre de 14, donc je commence à vraiment rentrer dedans, et donc par l'attentat à Sarajevo, et en étudiant ça, je me rends compte que l'attentat de Sarajevo a été d'une chance extraordinaire de réussir, parce que ils ont essayé, ils étaient plusieurs, les premiers se sont déballonnés, le deuxième a envoyé une grenade de carbonie sur la voiture, mais qui a explosé la voiture derrière, donc Ferdinand est ressorti intact.
Et
alors après, du coup, ça l'a perturbé, il a écourté ses discours, et puis les autres sont partis, sauf le chef de la bande, qui avait faim, qui s'est payé un sandwich, et en mangeant son sandwich, il s'aperçoit, il revoit la voiture de Ferdinand qui revient, parce qu'il avait décidé d'aller à l'hôpital voir les blessés de cet attentat manqué, et le chauffeur s'est trompé de rue, il était en train de faire une bagnole de marche arrière avec sa bagnole pour sortir de côté. Donc l'autre, il a posé son sandwich, il a pris son pistolet, et il a tué tout le monde. Donc, en voyant ça, d'un seul coup, donc là, j'ai dérivé, non pas sur l'histoire de la guerre de 14 que je voulais faire, mais sur une chronique, et la guerre n'a pas eu lieu parce que l'attentat a échoué. Et ça, c'est en cherchant finement dans la doc que d'un seul coup, on a envie de dévier sur l'histoire.
Si je peux rebondir sur les chroniques, pour rebondir plus généralement sur les chroniques, en fait, c'est un genre qui m'intéresse et qui me parle beaucoup. Donc, globalement, il y a deux façons de faire les chroniques, en fait, qui sont aussi deux façons de voir l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire, le chronique dont on parlait à Alain Grousset, qui est si on change un petit événement ou quelques petites circonstances, tout à coup, ça va complètement changer l'histoire. Et elle ne retombera jamais sur ses pattes. C'est l'idée de dire finalement le petit événement, le petit coup de chance peut avoir une influence incroyable sur l'histoire. C'est dans Asimov, le battement de tête du papillon qui tout à coup change l'histoire du monde. Enfin, le papillon écrasé qui change l'histoire du monde complètement. Donc il y a cette tendance-là.
Et il n'écrasait pas le papillon. Ouais. Il a changé l'histoire du monde.
Oui, on a rien.
ça, c'est vraiment les deux, comment dire, les deux visions de l'Uchronie, les deux façons de faire de l'Uchronie, et qui chacune disent quelque chose sur l'histoire et même sur la façon qu'on le voit l'humanité.
Je rajouterai une troisième, c'est l'Uchronie personnelle. C'est-à-dire que les gens s'interrogent en permanence, et si je m'étais marié avec ma copine de CM2, est-ce que ma vie aurait été différente avec mon épouse actuelle? Et donc là, je ne sais pas sur quoi on ne sait pas.
Après, c'est aussi, il y a l'autre question qui est celle du destin individuel quand on change les lignes historiques. Et là, c'est est-ce qu'on croit donc, que de toute manière, en gros, le gars qui a un salaud dans toutes les versions de l'histoire, ça sera un salaud? Ou est-ce que quelqu'un qui a un salaud dans une version de l'histoire, d'être pris dans un autre contexte, il peut devenir quelqu'un de bien? Est-ce qu'on croit vraiment qu'il y a une sorte d'inéluctabilité des caractères? Ou est-ce que finalement, en changeant les circonstances qui entourent la vie de quelqu'un, on peut aussi changer le parcours de vie de cette personne? Et pareil, ça dit quelque chose sur notre vision de l'humanité. Enfin, désolé, on s'écarte un peu, mais il faut les balancer sur les produits.
Qui sont justement, je rebondis aussi, ensemble, qui sont justement, puisque moi qui suis un peu inculte dans cette matière celte, qui sont les salauds historiquement importants de l'histoire de la mythologie celte?
De l'histoire légendaire, il y a un grand salaud qui est Vortigern. Quel enfoiré celui-là! Ce Vortigern, il y en a d'autres.
Mais raison, parce que c'est facile de traiter quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre de salaud, mais c'est ce qu'on peut.
Donc Vortigern, son nom signifie grand seigneur. C'est un chef. C'est un chef breton qui, d'après la légende arthurienne, a été le premier à faire appel à des mercenaires anglais-saxons en Bretagne. C'est lui qui a introduit l'ennemi en Bretagne, parce qu'il avait du mal à tenir ses salaires, qui sont un peu remuants, c'est un peu casse-pied. Donc il a fait appel à des mercenaires, et ces mercenaires sont devenus, en toute logique, des envahisseurs. Ça c'est le grand salaud breton. Breton, à prendre au sens de Grande-Bretagne. D'autres salauds, on en a un certain nombre en Gaule, des gens comme Brême, les collabos, ceux qui ont fait appel à leur grand ami César. On est un peu quand même dans la cagade, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait encore eu des idiots, plutôt des séquanes, qui avaient des problèmes avec leurs voisins, qui avaient fait appel à des mercenaires. Ils n'étaient pas anglais, ils n'étaient pas saxons, mais ils étaient germains. On a toujours des problèmes avec l'estin ici. Donc les germains d'Ariovistes, comme le feront les anglais et les saxons plus tard en Angleterre, une fois que c'était installé, c'était chez eux. Et c'est la raison pour laquelle les Gaulois ont fait appel à César. Et oui, c'est nous qui avons appelé les Romains. On a des problèmes avec nos mercenaires qu'on ne tient plus. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit coup de main? Ah, César, pour qui la vertu majeure était la clémence, est venu charitablement au secours des Gaulois. Et puis, il a inventé par tous ses camps.
Ça semblait une famille, ça peut faire de la fontaine.
Alors ensuite, il y a eu pas mal de Gaulois qui ont collaboré. Les Éduins ont bien collaboré avec César, pour se dire un peu tard, oula, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Certains historiens vont jusqu'à dire, alors c'est discuté, que parmi ces salauds qui collaboraient avec les Romains, il y en a un qui s'appelait Vercingétorix. Parce que, il semble qu'ils se connaissent bien tous les deux. La cavalerie de César en Gaule n'est pas une cavalerie romaine. Il y a un épisode grotesque où César, au début de la guerre des Gaules, quand il lutte contre Ariovistes et ses Germains, doit faire des tractations avec le chef ennemi. Alors, il y a un problème avec les légions super efficaces romaines, les Germains en face sont des cavaliers experts. Et ils se sont mis d'accord sur une rencontre dans une plaine à la tête d'un parti de cavalerie. Chez les Romains, il n'y a pas un cavalier. César se dit, mince, ma seule cavalerie, elle n'est faite que de Gaulois. Je ne vais pas me présenter, moi, le général romain, autour de garde du corps gaulois, face au chef germain avec ses Germains. Donc il a demandé aux Gaulois de descendre de leurs chevaux, il a fait monter des légionnaires, c'est une scène absolument ridicule où ces fantassins sur les légionnaires arrivent en tenant le guingois sur des chevaux gaulois pour aller négocier avec les Germains, qui peut-être ont ensuite la figure de toute façon, mais parce qu'ils se battront à pied face à des cavaliers. Et ça veut dire en fait que tous les cavaliers. Français qui est en train de s'emparer du rempart, et là, une cavalerie arrive. Cavalerie gauloise. Qui c'est? C'est les nôtres ou c'est les leurs? C'était les leurs. C'était les étudiants qui arrivaient pour prêter main forte aux Romains. Seulement, les Romains n'ont pas reconnu. C'est qui ceux-là?
Mettez vos maillots, quoi. Pour recueillir
en fait. Et en fait, on a gagné Gérardovie parce que la cavalerie gauloise alliée des Romains est venue au secours des Romains. Les Romains n'ont pas compris, ils ont pris la fuite. Et les Gaulois ont massacré ceux qui fuyaient. Donc il y avait plein de codes beaux, il y avait plein de salauds chez les Gaulois, en fait.
Maintenant, toute cette partie me ressemble à, un super épisode de Kaamelott.
C'est du ping-pong. Hein.
Alors que la perte aussi cache.
Et là, non. Ce qu'on voit, c'est que le pilum, c'est un coup unique. Hein. Et c'est conçu en plus pour traverser les boucliers, pour empêcher le combattant d'avoir un bouclier. Mais à part cette arme redoutable, et à part le bouclier qui a été aussi pompé, mais cette fois aux Samnites en Italie, les Romains arrivent avec un armement qui n'est pas un armement latin, mais qui est un armement en grande partie celte. Donc il y a eu plein de collabos chez les Celtes.
Mais c'est la grande force des Romains. Et finalement, c'est pas simplement d'ailleurs sur ce qu'ils ont pompé aux Gaulois, mais c'est qu'en général, ils avaient une inclusion culturelle de tous les pays où ils passaient. Les armées romaines, à l'époque où je suis, pour le coup, elles sont formées d'à peu près tout, sauf de Romains en fait. Et elles sont formées, donc voilà, enfin, elles sont formées d'archépartes, elles sont formées de cavaliers qui en effet sont en général pas romains, elles sont formées de soldats qui viennent de toutes les parties du monde, qui ont amené leur dieu avec eux, qui ont amené leur culture avec eux. Et voilà, c'est quand même aussi la force, pour le coup, culturelle des Romains, d'arriver à inclure toutes ces composantes dans l'Empire et d'en faire, pendant quelques siècles au moins, une sorte de tout cohérent quand même qui arrive à tenir ensemble.
Et, voilà. Au niveau mythologique, d'ailleurs, la conquête, pardon, mais cette extraordinaire capacité des Romains de récupérer en fait tout ce qui était intéressant chez leurs voisins et chez les peuples conquis, ça a permis l'expansion de certaines divinités celtes. Et en particulier des Ponas. Les Ponas, des Assumants, en fait, son culte s'est répandu sous l'Empire, tout simplement pour la raison qu'on évoquait, c'est-à-dire que les Romains sont mauvais cavaliers. Donc, quand la Gaule a été conquise, les forces de cavalerie romaines ont été pendant longtemps des forces de cavalerie gallo-romaines, et ces cavaliers gallo-romains ont répandu en Italie et dans tout l'Empire romain le culte des Ponas, la déesse jument. Donc, il y a eu vraiment. Syncrétisme, une synthèse entre les civilisations. Et et sur certains points, la conquête romaine a permis d'étendre certaines influences celtiques. Et au niveau des représentations d'Epona, Epona est représentée très souvent comme une guerrière avec une corne d'abondance. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a certaines vierges romanes installées, donc Marie sur son âne, qui ressemblent terriblement à l'Epona romaine.
Il y a maintenant les celtes sont aussi dans la religion chrétienne.
Ah oui, mais vraiment. Alors là, je vous invite à chercher sur le net les vierges romanes, 11e, 12e siècle. Et ensuite, vous allez chercher des matrones gallo-romaines. C'est la même chose. Hein. C'est la même représentation.
Mais même, enfin, au-delà de ça, les Celtes sont évidemment encore très diverses, pas de toute manière. Donc, ils ont traversé des siècles de religion.
Et pour finir, est-ce qu'à un moment, vous pensez à, aux Celtes dans l'espace, est-ce que on peut aller. Je ne voyais pas. Il y a une série néerlandaise, je crois, n'est pas si très français, qui s'appelle. De Keltiade, qui parle de Celtes immigrés, c'est un beau mot, qui ont voyagé dans l'espace et qui sont redécouverts par les Celtes terriens et qui ont lié une légende arthurienne avec des magies, des vaisseaux. Il y a des Celtes, je pense que c'est Patricia McKinney, mais la Keltiade, c'est les Celtes dans l'espace. Est-ce qu'on trouvera toujours des roues et des Celtes? Ah oui, on n'a pas parlé du Celte roux.
Est-ce que ça, c'est une mythologie ou pas? Au niveau du Celte rouge, les Celtes effrayaient les anciens, les latins, qui les trouvaient vraiment avec des cheveux très clairs. Tout simplement parce que les Celtes se décoloraient les cheveux, probablement avec chaud.
Les Celtes barbie, maintenant.
Moi, j'étais pas les Celtes, les femmes grecques aussi. Hein, toutes les femmes grecques, huppées, étaient blondes. Parce qu'elles se décoloraient les cheveux. Hein. En ce qui concerne les Celtes dans l'espace, je riais, mais vraiment, c'est pas absurde parce qu'il y a quantité de récits de voyage et c'est quand même un Celte, Saint Brendan qui a découvert l'Amérique. D'abord, il y a des tas de récits de voyage dans la tradition.
Par Valérie Mangin, donc plus maintenant ça se trouve en intégrale à pas trop cher.